you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Alicia Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Lucille Comeau, Boris Pinault, Grégoire Difior et la prise de son assurée ce soir par Pierrick Monsigny, la réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Elisabeth Philippe, Raphaël Léris et Florent Georgesco. Notre sommaire, une odyssée, un père, un fils, une épopée de Daniel Mendelsohn chez Flammarion, Souvenir dormant de Patrick Modiano chez Gallimard et Notre vie dans les forêts de Marie Dariussecq chez POL. Présent également à mes côtés, Boris Pinault qui surveille déjà le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Ne soyez pas timides. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film Carré 35 d'Eric Caravaca qui est sorti hier dans les salles. Nous ouvrons dans la bonne humeur cette émission avec un grand livre, celui de Daniel Mendelsohn, intitulé Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. L'auteur des Disparus, qui avait reçu le prix Médicis étranger en 2007, s'interroge sur sa filiation, sur la question de la paternité, sur la généalogie. Il part de son analyse de l'Odyssée d'Homère et l'écrivain américain nous propose en même temps d'ausculter, si je puis dire, sa relation à son père, faite pas mal d'incompréhension, de honte aussi, on va en parler au bout de ce voyage. Des questions, dont une qui est, selon l'auteur, celle de l'Odyssée, que sait-on vraiment de ses proches ?
Παναγιά, το πέλαγο κρατούσε στην ποδιά της. Τη σύγκυνο, την αμοργό και τα άλλα τα παιδιά της. Από την άκρη του καιρού και πίσω τους χειμώνες άκουγα σφύριζι μπουρού και βγαίναν οι γοργόνες.
Par où commencer pour parler de ce livre de Daniel Mendelsohn, Une Odyssée ? On pourrait dire un homme, ce serait peut-être une idée, une forme de plagiat. Raphaël Léris, vous commencez ?
Allez, je commence avec une métaphore que je n'ai pas été chercher très très loin dans l'Odyssée pour présenter ce livre comme une sorte de toile de Pénélope, de tapisserie, dans laquelle Daniel Mendelsohn donc tire plusieurs fils et les tire étroitement serrés sans les défaire. Il y a donc d'une part le récit des mois que J. Mendelsohn, le père de l'écrivain, a passé à assister un matin par semaine au cours donné par son fils à l'université sur l'Odyssée. Il y a le récit de la croisière que père et fils ont faite quelques mois plus tard
sur les traces
de l'œuvre homérique. Il y a encore l'évocation de leur relation, compliquée, distendue depuis l'enfance. Il y a encore l'ombre que l'on sent planer de la mort à venir du père. Voilà. Et donc, c'est une odyssée, oui, et très belle. Enfin, moi, il y a une expression que Daniel Mendelsohn aime bien pour encourager ses étudiants. Il dit qu'ils sont bigrement brillants. Et en lisant ce texte, j'ai plusieurs fois eu envie de m'écrier « Vous êtes bigrement brillant, monsieur Mendelsohn. »
À la fois, je suis sûr que vous l'avez fait.
À la fois dans la manière dont il l'évoque l'Odyssée, dont il nous glisse, et pas si discrètement que ça, mais quand même beaucoup, beaucoup d'analyses de texte.
Oh, pas du tout discrètement. C'est vraiment discrètement. Pleinement partie du texte et ô combien.
Et ô combien, et il le fait avec un plaisir infini
pour
et
nous.
Qui est partagé. voilà. Il y a donc ça. Pardon, je me suis égarée.
Ça, c'est de ma faute, ça. Il y a ça, il y a l'analyse du.
Voilà, donc l'Ibigrement brillant. Dans cette analyse, dans la sensibilité dont il témoigne dans l'évocation de sa relation avec son père, dans la manière dont il s'interroge sur lui, la manière dont il se comporte avec son père, y compris comme adulte, gêné de voir ce monsieur de 81 ans qui fait un peu la tête, en tout cas qui a l'air de ronchonner au fond de la classe, de dire qu'Ulysse, c'est pas un héros. Et alors qu'il découvrira que ses étudiants, eux, ont adoré ce vieux monsieur.
Forcément.
Voilà. Donc cette manière de nouer tout ça, ce qui fait sur le, il fait ça sur le même modèle que les disparus, où il nouait le texte, une analyse du texte biblique avec l'évocation du sort de 6 personnes disparues dans la Shoah de sa famille, 6 personnes sur les traces desquelles il partait, les traces et de la mort et de la vie. Mmh. Et donc cette manière de tresser l'analyse de texte et la vie, je trouve que c'est splendide et ça donne au-delà d'une odyssée, il me semble. Et parce que je n'ai pas fait 9 ans de lettres classiques pour rien. Être à la fois une odyssée.
9 ans.
Et un magnifique péan. Le péan, c'est à la fois un chant de triomphe et un chant funèbre. Et voilà, pour moi, c'est ce très beau péan à la mémoire de son père.
Vous l'écrivez comment, péan ?
P-E-A-N.
Très bien, 4 lettres, pas mieux. Elisabeth Philippe, sur Daniel Mendelssohn, une odyssée.
Oui, je partage absolument le point de vue de Raphaël. Pour moi, c'est un texte remarquable, d'une intelligence folle. Effectivement, vous rappeliez les exégèses de l'Odyssée qu'il distille dans son texte. Mais jamais on est écrasé par cette culture. Et on sait que l'hospitalité est un des thèmes majeurs de l'Odyssée. C'est vraiment, Daniel Mendelssohn est un hôte formidable. C'est-à-dire qu'il nous reçoit dans ce livre avec énormément de générosité. C'est extrêmement accueillant. Il a vraiment la générosité de ce que les Grecs appelaient l'agapé, cet amour désintéressé. On le ressent pleinement et on est embarqué dans ce livre comme dans cette croisière que font le père et le fils. Et ce qui est également extrêmement fascinant et qui force l'admiration, c'est la façon dont, pour ce livre, il reprend la structure même de l'Odyssée. Tous les chapitres, le proème, la télémaquie, etc., il les reprend, il reprend ces thèmes presque l'air de rien, et c'est jamais artificiel. C'est noué, Raphaël prenait la métaphore de la toile de Pénélope, on pourrait aussi retrouver une autre métaphore issue de l'Odyssée, c'est le nœud secret de Circé. Et là, tout est noué effectivement avec cette maestria, on sent qu'il y a une magicienne derrière. Enfin, il y a vraiment quelque chose de magique dans cette façon de nouer tous ces thèmes. Et puis... il parle, il évoque quand même la mort de son père, où là on sent l'ombre, comme le disait Raphaël, l'ombre de la mort planer. Et pourtant, le texte n'est jamais lesté de pathos ou d'un sentimentalisme qui pourrait être pesant, ce qui n'empêche pas ce livre d'être profondément émouvant. Je trouve qu'il y a des scènes magnifiques, notamment au cours de la croisière. Moi, il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, Daniel Mendelssohn est claustrophobe. Et parmi les étapes que réserve cette croisière sur les traces d'Ulysse, il y en a une à Malte, dans la grotte, qui est censée avoir hébergé, être celle de Calypso. Et Daniel Mendelssohn est extrêmement angoissé à l'idée de descendre dans cette grotte. Et c'est donc son père qui, lui, court plus de risques à aller dans cette grotte qui, apparemment, est un peu dangereuse. On risque de glisser. Et son père de 81 ans, lui, court un réel risque. Mais il va prendre son fils par la main pour l'entraîner dans cette grotte. C'est extrêmement simple, mais je trouve que c'est d'une beauté. Et c'est extrêmement émouvant, tendre. Et tous ces éléments conjoints font de une odyssée, un livre superbe.
Bon, on va voir quelle comparaison, métaphore, Florent-Georges va user, parce que ce qu'elle pratique avec l'Odyssée, c'est qu'il y a tout dedans,
oui,
donc on peut y aller, en effet.
C'est un peu le principe du livre, en effet. Une des choses qu'il réussit brillamment, justement, c'est c'est cette gageure de suivre pas à pas et l'Odyssée et la relation avec son père, de mêler les trois fils narratifs dont parlait Raphaël au début. Il y réussit. Il y a un grand danger d'artificialité. Au début, j'ai été un peu inquiet parce que on peut tout mettre dans l'Odyssée. Et donc, toutes les comparaisons qu'il faisait entre sa situation par rapport à son père, y compris même sa situation dans le séminaire, il ne cesse de faire des analogies avec l'Odyssée. Tout cela pouvait tourner à vide assez vite parce qu'encore une fois, n'importe quelle situation de la vie peut entrer dans l'Odyssée si l'on veut. Eh bien non, il réussit à nouer très profondément sa relation avec l'Odyssée à travers toutes les relations qui sont dans le livre. Et je pense à quelque chose qui est à la fin, qui est extrêmement puissant aussi, qui est la question de la métamorphose. Quand il parle des âges de la vie, quand justement son père prend la parole dans le séminaire et parle de sa femme. Ce sont des pages extrêmement belles où il parle de la transformation, où il explique que vivre, je ne sais plus combien d'années ils ont vécu ensemble, plus de 40 ans ensemble, c'est vivre avec plusieurs personnes. C'est, il rappelle avec un certain orgueil, ma femme était très belle. Ce qui émeut et amuse à la fois les étudiants quand ils voient ce vieil homme se vanter, si l'on peut dire ainsi. Et il dit très bien l'unité des personnes à travers ça. Et on voit, on est au bout du livre, on a commencé à connaître très intimement ce personnage du père. On voit dans ce vieil homme les visages qu'il a eus. On voit, et il évoque lui, les visages de sa femme. Il évoque les plusieurs personnes, si je puis dire, qu'ils ont été l'un et l'autre. Et il dit avec beaucoup de force l'unité de leur vie, l'unité de leur personne. Et au fond, là, Mendelssohn attrape quelque chose d'essentiel dans l'Odyssée et justifie totalement cette sorte de compagnonnage avec Homère qu'il a tenu dans l'Odyssée, absolument tout sauf formel, parce qu'il finit à travers ça par dire quelque chose de très profond sur l'Odyssée, en même temps, exactement dans le même temps qu'il le dit sur son père et sur, au-delà de tout, ce qui est le vrai sujet et de Homère et de Mendelssohn, ce que vous disiez Arnaud au début, un homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Le premier mot de l'Odyssée. Et il dit juste une chose à ce moment-là, au fond, tout ce qu'il y a de magie dans l'Odyssée d'Homère, ce n'est pas de la magie. C'est ce que mon père vient de dire. Donc, il y a une sorte de renversement. Il montre très bien qu'au fond, c'est sans doute la vérité du texte d'Homère et sans doute la vérité des vies, c'est qu'il n'y a de magie que dans le temps, que dans les métamorphoses que le temps entraîne, et qu'on débouche à travers ça dans une sorte de fantastique qui peut permettre de faire entrer tout ce qu'il y a dans Homère, c'est-à-dire aussi bien les cyclopes que toutes les merveilles qu'il y a, tout le fantastique, toute la mythologie, ne fait que dire la vérité de la vie humaine qui est elle-même cette magie qu'il attrape merveilleusement dans la figure de son père, dans la vérité profonde de son père à travers le temps, ce facteur de métamorphose et de fantastique.
On a parlé de la forme, c'est vrai, de ce livre de Daniel Mendelssohn. Il emploie aussi, il rappelle que c'est la forme de l'Odyssée, cette forme circulaire du récit, dont on retrouve les différentes strates dont parlait en ouverture Raphaël Léris, mais aussi les différentes temporalités, parce que c'est vraiment important, et dans l'Odyssée d'Homère et dans celle de Mendelssohn, ce qui fait qu'aussi on a ce fils qui regarde son père à différentes hauteurs de regard selon les âges, parce que ça commence par le petit garçon qui a peur, qui n'ose pas déranger son père pour un devoir de maths parce qu'il va encore passer pour un débile, aux yeux de son père en tout cas. Et ça va jusqu'au professeur.
Il raconte fils sa qui est propre devenu... vie de manière plus en creux.
Plus en creux, mais il
de manière
il est là.
Très puissante.
Il est là.
On garde, je pense, en tête, après l'avoir lu, certains des passages essentiels de sa vie comme des moments eux-mêmes, en quelque sorte, mythologisés.
Ouais.
Le moment où il a révélé à ses parents qu'il était homosexuel. Et là, très belle et très étonnante réaction de son père, qui lui dit, qui dit à sa mère,
laisse,
je m'en occupe.
Je sais ce que c'est.
Tout à fait le contraire de ce qu'on aurait pu attendre de ce père bougon, rigide, etc. Et il y a quelques moments comme ça, en effet, de la vie de Daniel Mendelssohn lui-même qui nous accrochent.
Et puis au-delà de l'exégèse aussi, mais enfin, ça en fait partie, mais pas toujours. Il y a ce goût de l'étymologie. Enfin, pour moi, c'est un bonheur à chaque page. Mais c'est pas pour faire le malin, encore une fois. C'est juste pour dire plus précisément les choses. Employer tel mot, parce que ça, son étymologie, elle est composée de tel mot et tel mot, et tout d'un coup, il y a des choses qui sont absolument merveilleuses dans cet ordre-là. Voilà, encore des choses à dire, beaucoup sur ce livre. Raphaël Léris.
Et il y a plusieurs passages assez beaux où Daniel Mendelssohn explique qu'il a eu des pères de substitution et que son père l'a peut-être mal vécu. Il parle donc de plusieurs figures de professeurs qui ont joué cette figure, souvent des professeurs homosexuels. Et donc, il parle d'un professeur dont il dit « C'est lui qui me fit comprendre que beauté et plaisir sont au cœur de l'enseignement ». Et ça, je trouve que c'est extraordinaire la manière dont il le restitue au fil de tout le texte. Donc, quand il parle de l'étymologie, quand il analyse les textes. Et c'est quelque chose que je regrette un petit peu en lisant ce très beau livre. C'est de ne pas avoir la même forme d'enseignement de la littérature aux États-Unis, en France. Enfin, la manière de socratique, hein, de faire analyser le texte aux étudiants, de leur dire mais alors là, donc il y a ce préfixe-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette structure circulaire, qu'est-ce que vous en pensez, les faire participer, se laisser un petit peu bousculer par eux. Ça, je trouve que c'est aussi extrêmement intéressant sur le rapport qu'on entretient avec le texte, qui du coup donne quelque chose de très vivant.
C'est un crève-cœur. Quand on voit ça, on se dit qu'on a raté notre vie. qu'on aurait, ne pas faire nos études au Bard College est une absurdité. C'est une nostalgie.
Il faut tomber sur Mendelssohn, quand même.
J'ai deux grands regrets. Et je n'aurais jamais imaginé qu'une croisière culturelle sur les traces d'Ulysse puisse être aussi passionnante.
On a envie de s'y inscrire.
Je dois le dire, oui.
Même
si ma femme écoute, je la préviens.
Avec cet enfant de 10 ans qui a déjà lu l'Odyssée.
Et qui trouve que Homère aurait dû être un peu mieux relu.
Oui.
On rencontre apparemment des gens passionnants. Tout est beau, tout est passionnant. Tout est riche et intéressant. Mmh. Faisons des croisières. Enfin, je découvre ça.
Oui.
Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. Je m'inscrirai peut-être pas forcément à celle-là. Elisabeth Philippe.
Oui, c'est un livre formidable sur la transmission, sur les différentes formes de transmission. Transmission d'un père à un fils, la transmission du savoir d'un professeur à ses élèves. C'est également le professeur n'est pas toujours celui que l'on croit, puisque le père va également permettre au fils d'apprendre des choses sur l'Odyssée. Et ce qui est très beau aussi, c'est que tout comme c'est un voyage qui n'a pas vraiment de fin. Et la connaissance du père n'est jamais complète. Le père a travaillé pendant longtemps, et ça le fils ne l'apprend que très tard, sur l'incertitude, le principe d'incertitude. Et il y a cette incertitude qui demeure autour de qui était vraiment ce père. Et en fait, ça résume une idée très simple, mais qu'on éprouve tous, et qu'on ne connaît jamais totalement les personnes, même celles qui nous sont les plus proches, même notre père. Et c'est un livre qui nous fait également réfléchir chacun à notre propre relation à nos pères.
Boris Pinault, quelques commentaires sur cette odyssée de Daniel Mendelssohn?
Oui, sur Twitter, Trotman écrit que le Mendelssohn est à la fois brillant, distrayant et profond. Bottissage sur la thématique père-fils dans la vie et dans Homère. Jean-Luc Morel a lui aussi beaucoup aimé le livre Souffle de l'Odyssée, intelligence du cœur et, écrit-il, des trucs, des astuces de prof de lettres à glaner au passage.
Ah oui, oui. Oui, à commencer par là. Florent Georgesco?
Mon épithète homérique.
J'en
ai pas eu.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Le premier qui est dans le proème de l'Odyssée, Polytropos, qui est la manière donc de définir Ulysse, ce qui Mendelssohn dit, ça signifie classiquement
beaucoup de détours.
L'homme aux mille détours, l'homme rusé, mais aussi, selon lui, ça évoque l'ensemble des trajectoires circulaires justement d'Ulysse. Et ce mot va très bien au travail de Mendelssohn. En effet, en général, c'était ce qui était très beau aussi dans Les Disparus. C'est une sorte de notre auditeur de parler de trucs. Les trucs d'écrivains de Mendelssohn sont absolument passionnants. C'est une sorte de boîte à outils. Il mélange tout pour justement atteindre à cette figure qui reste jusqu'au bout incertaine du père. Et c'est un très belle méthode littéraire au fond. Il navigue à vue. Il nous montre tous ses outils. Il nous montre tout ce qu'il fait. Les coutures sont toujours apparentes. Et on voit très bien, il montre. C'est aussi ça, un cours de littérature. Le cours de littérature, c'est aussi de suivre tous les trucs, toutes les ficelles, y compris dans Mendelssohn, qui sont une sorte de forme d'acharnement à la connaissance de ce qu'est une vie humaine, de ce qu'est la vie de son père, de cette figure qui reste, en effet, comme le disait Elisabeth, encore incertaine à la fin, encore mal dessinée, et pourtant, grâce à tous ces outils merveilleux que réunit Mendelssohn, on a un sentiment d'intimité avec ce vieil homme qui, je dois dire, au début ne paraît pas une personne particulièrement passionnante. Et c'est d'autant plus méritoire, d'autant plus excitant et touchant pour nous, je trouve, de finir par l'aimer autant qu'on l'aime, pour tout dire.
Alors, je me suis posé une question un peu idiote, mais quand même, je vous la livre à la lecture de ce livre. Quel livre va pouvoir écrire Daniel Mendelssohn après celui-ci?
C'est une excellente question.
Ah, merci. C'est pas grave s'il n'en écrit pas d'autres.
Non.
Hein, parce que pourtant, on a fait Les Disparus et celui-ci.
Ah oui, est-ce qu'on se posait pas la même question après Les Disparus aussi?
Ouais, mais alors là, c'est puissance 1000. Parce qu'une fois qu'il a l'Odyssée et son père et sa vie aussi intime.
Sa mère est toujours vivante.
C'est ce que je me suis dit. Puisque ce livre est d'ailleurs dédié à ma mère.
Avec un personnage magnifique des Disparus.
Elle est extraordinaire.
Et puis il y a ses enfants. Il a ses fils aussi.
Qui sont la joie de tous ses jours.
On peut être confiant.
Bon, d'accord. Mais bon,
l'Odyssée. Le livre suivant était sur l'Iliade.
Il va pas reprendre.
Peut-être.
Ouais.
À nouveau.
Bon. Vous avez une hypothèse, Raphaël Léris, pour le prochain livre de Daniel Mendelssohn? Qu'est-ce qu'on lui commande? Maintenant qu'on connaît sa boîte à outils.
Oui, son séminaire qu'il vient de faire pour.
Ou alors, non, on propose que ce soit lui qui mène la croisière et on s'y inscrit.
Là, d'accord. Parce que les cocktails ont l'air bons en plus à bord.
Mais oui. Bah oui, tant qu'à faire, il faut allier plaisir et beauté. Voilà. Bon, on fait ça alors.
Bon, je me fais engager comme steward, là, avec bonheur.
Très bien, vous m'apporterez un cocktail, mon petit Florent.
Avec plaisir.
Daniel Mendelssohn, Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. Bon, c'est un livre qu'on va obliger les gens à lire, non? Mais enfin, on va obliger à le prendre dans les mains.
Ils ont commencé la lecture, d'accord.
Et après, ils pourront plus s'arrêter de le lire. Il est publié, ce livre, chez Flammarion. Oh là là, ce que j'ai failli ne pas citer les traductrices de ce livre, ce qui serait quand même une première dans cette émission, ça tomberait mal. Ce sont Clotilde Meyer et Isabelle D. Taudière, qui ont magnifiquement, et Daniel Mendelssohn en atteste dans sa postface, enfin dans ses remerciements, magnifiquement traduit ce livre. À suivre dans la dispute, Patrick Modiano et Marie Dariussec.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée ce soir à la littérature avec cette question, le livre d'après le Nobel est-il plus difficile à écrire? Patrick Modiano a répondu à sa façon, publiant non pas un mais deux textes. Un récit, on va dire ça comme ça, on discutera du terme approprié. Et puis une pièce de théâtre, on parlera d'ailleurs de la pièce dans une prochaine dispute. On va le faire dans une dispute du lundi consacrée au spectacle vivant. Ce soir, c'est donc de souvenirs dormants que nous allons débattre.
Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Mon couplet s'est perdu sur les bords d'un jardin. On me l'a jamais rendu et pourtant je sais bien que les amants de Paris m'ont volé mes chansons. À Paris, les amants de drôles de façon. Les amants de Paris.
Ainsi débute Souvenir dormant de Patrick Modiano. Un jour, sur les quais, le titre d'un livre a retenu mon attention, Le temps des rencontres. Pour moi aussi, il y a eu un temps des rencontres dans un passé lointain. À cette époque, j'avais souvent peur du vide. Je n'éprouvais pas ce vertige quand j'étais seul, mais avec certaines personnes dont justement je venais de faire la rencontre. Je me disais, pour me rassurer, il se présentera bien une occasion de leur fausser compagnie. Quelques-unes de ces personnes, vous ne saviez pas jusqu'où elles risquaient de vous entraîner. La pente était glissante. Je pourrais d'abord évoquer les dimanches soirs. Ils me causaient de l'appréhension, comme à tous ceux qui ont connu les retours au pensionnat, l'hiver, en fin d'après-midi, à l'heure où le jour tombe. Ensuite, cela les poursuit dans leurs rêves, parfois pendant toute leur vie. Le dimanche soir, quelques personnes se réunissaient dans l'appartement de Martin Hayward, et moi je me trouvais parmi ces gens-là. J'avais 20 ans et je ne me sentais pas tout à fait à ma place. Un sentiment de culpabilité me reprenait comme si j'étais encore un collégien. Au lieu de rentrer au pensionnat, j'avais fait une fugue. Dois-je vraiment parler tout de suite de Martin Hayward et des quelques individus disparates qui l'entouraient ces soirs-là? Ou bien suivre l'ordre chronologique? Je ne sais plus. Bon, je m'arrête là. Moi, j'aurais bien aimé que je pourrais d'abord évoquer les dimanches soirs. Fut la première page de ce... La première phrase de ce livre de Patrick Modiano, dont j'ai lu ça et là, où j'ai entendu ça et là quelques critiques un peu déçues, un peu « oh là, bon, il a raté son livre d'après ». Je le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé « Souvenirs dormants », mais je développerai dans un instant les nombreuses raisons. On pourrait parler de récit circulaire, hein, là, pour le coup. Structure circulaire du récit, aparté, digression, retour en arrière, retour en avant. Elisabeth Philippe, vous commencez à nous parler de ce livre?
Oui, vous demandiez en préambule le livre d'après, comment on écrit le livre d'après le Nobel, en faisant le même livre qu'avant le Nobel.
Et une pièce de théâtre.
Et bon, une pièce
on en
de théâtre.
Mais c'est pas rien quand même.
Ce qui est certain, c'est que Souvenir dormant, c'est un livre éminemment modianesque. On y retrouve tous les éléments propres à l'univers de cet auteur, ce côté errance dans Paris, fugue dans Paris, et jalonné donc de rencontres de femmes. On retrouve évidemment tous les éléments également qui que l'on a plaisir à lire de livre en livre chez Modiano, son amour pour les annuaires, les noms, les prénoms, les quartiers de Paris, etc., etc. Et cet air de mystère qui enveloppe tout ça. Souvenir dormant, très vite, moi, ce titre m'a évoqué Les eaux dormantes, puisque c'est un livre, comme l'Odyssée finalement de Mendelssohn, c'est aussi un livre très flottant, on navigue dans un Paris languide, aquatique. Donc le narrateur, un certain Jean D, erre, qui a une vingtaine d'années, erre dans Paris et ses errances sont jalonnées de, enfin son errance est jalonnée de rencontres avec différentes femmes, femmes mystérieuses qui seraient un peu comme autant de nymphes ou de sirènes qui vont ponctuer son parcours. Des femmes, moi j'aimais assez parce qu'à chaque fois il les nomme évidemment par leur prénom et leur nom de famille, sauf une. Il y a notamment Geneviève d'Alla. Mais là, j'ai trouvé que ça donnait une dimension très truffaldienne au livre. J'entendais Fabienne Tabar, le nom répété par Antoine Douanel dans Baiser volé. Et il y a aussi cet air de mystère qui enveloppe ce livre un peu flottant, toujours entre rêve et réalité, peuplé d'ombres, de fantômes, puisque dès le départ, le narrateur dit se méfier de ces rencontres, puisqu'il dit, je n'ai plus la phrase exacte, mais qu'on ne sait jamais jusqu'où elles vont pouvoir nous entraîner. Donc il y a cet aspect de vertige. Il y a également le thème de l'éternel retour qui est très très présent. Il cite, puisqu'il fréquente beaucoup des librairies ésotériques, donc vraiment cet aspect de mystère, cette dimension de mystère nimbe tout le récit, tout le livre. Et donc oui, c'est toutes ces femmes qu'il va fréquenter, dont il va parler, sont un peu comme autant d'Eurydice sur lesquelles il se retourne pour mieux les faire disparaître dans cette fuite, cette cavale somnambulique, une cavale pour échapper à des poursuivants. Imaginaire ou non, c'est tout le. Là aussi, ça reste très très flottant. Donc, non, moi, je me suis laissée aussi porter par cette phrase modianesque, un peu brumeuse, ces images très simples et à la fois très belles, notamment cette image du tableau lumineux du plan de Paris lumineux sur lequel, alors je ne sais plus s'il en existe encore. Je pense dans certains.
Je me suis demandé évidemment
de métro,
lisant,
où on pouvait appuyer sur certains aussi. Boutons et puis les stations s'illuminaient en rouge et c'est comme une espèce de constellation et c'est l'image de la psyché même du narrateur, de ses souvenirs, et je trouve ça extrêmement beau, puisque la question du destin est aussi très très importante.
Paris pour moi est semé de fantômes aussi nombreux que les stations de métro et tous leurs points lumineux quand il vous arrivez d'appuyer sur les boutons du tableau des correspondances. Et ça revient souvent d'ailleurs, cette image-là. Je l'ai dit en ouverture, pas de genre indiqué sur ce livre. Il y a beaucoup de romans de Patrick Modiano. C'est une indication que je trouve, ou une non-indication que je trouve aussi riche pour le lecteur finalement. Florent Georgesco.
Oui, c'est une sorte d'immédiateté. C'est peut-être le Nobel qui fait ça. On est face. Le genre, c'est Modiano.
Il y a une sorte de transparence
absolue. Je trouve que je ne fais pas du tout partie de ceux qui disent que c'est un livre décevant. Au contraire, je dois dire, j'ai beaucoup plus été séduit par ce livre que par quelques-uns des derniers Modiano. Je trouve que le Nobel fait du bien. On devrait essayer de temps en temps.
Bon, on a déjà croisière à faire, on peut pas tout faire en même temps.
Après la croisière. Je vais dire simplement ce qui me. Il y a mille choses à dire et on pourrait. Il y a mille aspects modianesques, évidemment. Il y a mille rendez-vous qui, pour les amateurs de Modiano, sont des rendez-vous délicieux. Il y a Paris, il y a au début une notation très belle, notamment sur les. Sur le fait que la période qu'il décrit dans les années 60, sa jeunesse, c'est une période où il nous aura été donné, dit-il, de vivre encore quelques mois dans les anciens décors. Il dit ça à propos de la chambre d'hôtel.
Si vous piquez mes citations, je suis pas content. J'en avais quelques-uns, évidemment.
Elle est belle.
Elle est sublime.
Pour le bingo, alors.
Si on a la même chose, ça n'ira pas.
Je vais crier Keane dans un instant.
À propos de Geneviève d'Alam, justement.
Absolument.
Page 22.
En plus, ah bon, moi, je croyais qu'elle était plus loin. Bon, vous avez raison.
C'est au tout début.
C'est vrai. Page 22. Il nous aurait été donné, à nous qui étions très jeunes, de vivre encore quelques mois dans les anciens décors.
Et juste au-dessus, Geneviève Dallame aura été la dernière personne que j'ai connue à habiter dans une chambre d'hôtel. Ça aussi, c'est une notation extrêmement parlante, parce qu'on a tous ces souvenirs littéraires ou cinématographiques des gens qui ont... Elle est secrétaire, je crois, chez Polydor, des gens qui ont un métier plutôt modeste et qui vivent à l'hôtel, ce qui est évidemment un tout autre monde. Il montre très bien ce qu'il a vécu dans cet interstice, qu'en fait, c'était déjà... Le monde qu'il décrit était déjà anachronique, et donc il y a une sorte de mise en abîme de l'anachronisme, dans lequel on est dans du Modiano quintessentiel, si je puis dire. Mais il y a autre chose, et le titre d'ailleurs, que je trouve très beau aussi, pointe dans cette direction de cette autre chose. Il me semble que le sujet de ce livre, c'est la bifurcation, c'est les vies qu'on aurait pu avoir, comme il le dit. Vous avez peut-être cette citation, Arnaud.
Mais j'attends mon tour maintenant.
Quand il parle des multiples formes qu'auraient pu prendre nos vies. Et il le dit à propos de Paris, d'ailleurs, à propos de la... il dit Paris est constellé de points névralgiques et des multiples formes, etc., qu'auraient pu prendre nos vies. Ce conditionnel du Auré me paraît être le registre du livre. Les histoires qu'il raconte sont de demi-histoires, sont des histoires inachevées, y compris cette sorte d'intrigue policière qui apparaît plutôt vers la fin du livre, où il se retrouve mêlé à une... Il y a un cadavre, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, parce que tout reste assez incertain là aussi. Mais il est entraîné là-dedans, et il en parle comme si, comme de quelque chose qui a pu le terrifier longtemps. Et puis il dit un jour je suis revenu à mon ça s'était passé à Montmartre, où en fait il a vécu quelque temps avec la jeune femme qui est peut-être coupable de ce meurtre, en tout cas qui est liée à ce cadavre. Je me suis aperçu, dit-il, en revenant à Montmartre, que je n'avais plus peur parce que je n'étais plus le même, parce que plus rien n'était la même chose, parce que j'étais... Tout avait disparu et c'était comme un monde imaginaire. Et je trouve que là, il y a une clé de ce livre qui est absolument passionnante. Tous les points névralgiques, comme il dit, du récit, sont en permanence les moments où la vie aurait pu être ceci, où elle glisse. C'est l'histoire avec Geneviève Dallame. Il y a une très belle fin de chapitre où ils se retrouvent chez leur amie commune, qui est une ésotériste, laquelle lui dit « Vous pourriez peut-être venir vivre avec moi, Geneviève et vous. » Il y a tout à coup une possibilité qui n'est pas rien, vivre à trois, qui est pour lui de toute façon vivre avec Geneviève, ce qui n'a pas été vraiment le cas, c'est s'embarquer dans une aventure ésotérique sans doute très troublante. Fin de chapitre, Modiano passe au chapitre suivant, on est 6 ans après, il croise Geneviève Dallame par hasard dans la rue avec
un
enfant.
Pas trop.
On s'aperçoit que cette vie n'a pas été vécue.
Florent.
Je dis, il y a beaucoup d'autres choses dans le livre, rassurez-vous.
Mais vous en dites beaucoup. Et puis il faut laisser la parole aux autres surtout.
Mais c'est ça qui est passionnant.
Raphaël Léris, ce qu'on n'a pas encore entendu sur Modiano.
Moi, j'aimerais revenir à la question du genre du livre et au fait que le dernier livre de Modiano qui n'avait pas d'indication roman, c'était Un pédigré. Voilà. Et Un pédigré, donc qui était un récit biographique, autobiographique, terriblement factuel. Voilà. Et qui s'achevait d'une manière avec une citation que je vais lire. Je suis sûre que vous ne l'avez pas dans votre bingo. Donc, qui disait...
Non plus que vous la retrouviez.
Je la retrouvais. Il parlait de... Voilà, ça s'achevait sur un souvenir d'un soir de 1967, où le jeune homme né en 1945 s'était, disait-il, senti léger pour la première fois de ma vie. Et on sait que son premier livre allait paraître, La Place de l'Étoile, serait publié l'année suivante. Et donc, il poursuit, la menace qui pesait sur moi pendant toutes ces années, me contraignant sans cesse à être sur le qui-vive, s'était dissipée dans l'air de Paris. Et pour moi, Souvenir dormant raconte la vie dans cette menace, ce jeune homme. Alors là, il écrit qu'il vit dans une certaine solitude et un certain désarroi, et on retrouve quelque chose de la concision qu'il y a dans Un pédigré. Et donc, pour moi, le Souvenir dormant porte sur cette jeunesse, sur la menace, sous la menace, sur le qui-vive. Le qui-vive fut-il un peu flottant et somnambulique? On pourrait aussi dire que ce livre pourrait commencer par « Longtemps, je n'ai pas dormi ». On a l'impression que c'est longtemps, je ne me suis jamais couché ou quelque chose comme ça. Puisque par ailleurs, dans le rapport au rêve et au souvenir, c'est aussi un texte profondément proustien. Où moi, j'ai très souvent pensé au fameux début de Swann, où... quelquefois, comme Ève naquit d'une côte d'Adam, qui finit cette citation de Proust sur quand il rêve d'une jeune femme qu'il connaissait, il dit cette jeune femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver, comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imaginent qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Mmh. Et pour moi, c'est profondément la manière dont j'ai lu Souvenir dormant. C'est un texte très proustien de ce point de vue-là.
Très proustien. Alors, bon, j'avoue que c'est un plaisir de chaque page. Alors, très différent de celui de Mendelssohn, hein, mais vous avez déjà fait un certain nombre de citations. Je vais encore en faire une. Non, parce qu'il a quand même le génie comme ça de glisser des phrases. Ah, oui. Bon, on en a tous évidemment cité, coché. Donc, il y en a une qu'on n'a pas encore utilisée. Donc, je me propose de la prendre. C'est l'ouverture du deuxième chapitre. J'ai longtemps été persuadé qu'on ne pouvait faire de vraies rencontres que dans la rue. Mmh. Bon, ben à partir de là, évidemment, on est en territoire modianesque, disiez-vous, Florent Georgesco, c'est-à-dire on est dans un espace qui presque, ce ne sont pas les limbes, mais on est entre la fiction et la réalité. J'ai d'ailleurs entendu Patrick Modiano dans son entretien qu'il avait donné à Christophe Onodibio sur notre antenne, ne pas vouloir répondre sur la véracité ou non de tel ou tel épisode, et surtout pas du cadavre qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Bon, il y a quand même cette incertitude qui ajoute aussi quand même une dimension, d'autant qu'il n'y a effectivement pas marqué roman. Mais il y a aussi ce plaisir de se perdre dans la temporalité. Vous disiez au début de votre intervention, Elisabeth Philippe, Patrick Modiano a environ 20 ans, une vingtaine d'années dans ce livre.
Sauf qu'il a...
Jean Day. Et il a plein d'âges différents dans ce livre, puisqu'on l'a dit, 3 ans après, 6 ans après, 15 ans avant, des 20 ans plus tard. Et ça, c'est aussi...
Et il se met, une des choses très belles, qui rejoint d'ailleurs la pièce qu'il publie en même temps, c'est qu'il se met en scène bref moment, aujourd'hui.
Oui.
Il donne les dates de l'écriture, on a quelques repères sur
aujourd'hui, j'écris en février 2017, etc.
On a une notation jusqu'à, je crois, en mars ou avril de cette année. Donc, et ce sont des moments très saisissants aussi. Il pousse la porte de ces chambres d'hôtel d'autrefois. Et son apparition en vieil homme, déjà, est particulièrement belle parce que justement, il y a ce regard sur toutes les vies qu'il aurait pu avoir. Il n'y a pas que le regard sur sa jeunesse. Le regard sur sa jeunesse montre-t-il, pour moi, dans ce livre, c'est le regard sur ce qui n'a pas eu lieu. C'est le regard sur les 50 autres vies qui étaient possibles pour lui. Or, on est juste avant, en effet, la publication de son premier roman. Il ne sait pas encore ce qu'il sera. Et il multiplie, au fond, les pistes et la nostalgie pour les vies qu'il n'a pas menées est sans doute une des choses les plus fortes pour moi dans ce livre.
Alors, un partage et un conseil, peut-être à nos éditrices et auditeurs, si vous le pouvez, organisez-vous pour avoir un tout petit peu de temps, pas longtemps, 2 heures devant vous pour le lire d'une traite, au moins la première fois, parce que ce serait vraiment dommage de s'interrompre dans cette lecture, d'autant qu'on n'en a pas envie. Et je ne sais pas si vous avez vécu cela, vous aussi, là c'est le moment partage, donc j'étais, mais je ne peux pas en dire plus, mais absolument, attrapé, scié en deux, frappé, étonné par la fin du livre. Est-ce que vous avez eu une sensation, est-ce que vous avez le souvenir de la fin de votre lecture de ce texte de Patrick Modiano, sans trop en dire? tout le monde se reporte à ses...
Alors tout le monde ouvre son livre.
Non, parce que pour moi, Souvenir dormant, je dirais volume 1, moi. Mais
oui.
Bon,
il finit.
Il y a un côté jeu de piste où effectivement.
Il finit sur l'idée de double.
Il sème à la fois des indices.
Et du coup, on a envie de le reprendre au début.
Il est circulaire aussi en cela.
C'est le côté Lost Highway de Patrick Modiano, ça. C'est le mouvement circulaire.
Et en effet, il finit sur sur l'incertitude des chemins. C'est ça la fin du livre. Dans cet itinéraire qu'il fait, c'est une très belle chose aussi. Il retrouve un bout de papier dans lequel un itinéraire est noté. C'est très vieux, il ne sait pas de quand ça date.
Vous en dites trop, Florent.
Et il le refait.
Vous le dites trop. Elisabeth Philippe, vous vouliez dire un dernier mot sur Patrick Modiano?
Non, simplement qu'il y avait cette impression à la fois d'indices semés, parce qu'effectivement, il parle de... Ce narrateur se désigne comme écrivain, romancier, dit qu'il a... Donc on peut se dire, oui, c'est Patrick Modiano qui parle, et en même temps, il brouille les pistes, toujours comme pour semer ses poursuivants et se débarrasser, fuir cette menace, et je trouve ça aussi très beau.
Bon, ça c'est Souvenir dormant de Patrick Modiano chez Gallimard, et un petit temps de décalage peut-être sur Twitter, puisque je demandais tout à l'heure quel livre Daniel Mendelssohn pourrait écrire après cette odyssée. On a une réponse, Boris Pinot.
Oui, Ripley is an Alien répond un autre livre exceptionnel.
Voilà, c'est une bonne réponse finalement, non?
Donc voilà. C'est un peu le sens de notre message.
Oui. Non, mais c'est peut-être divinatoire, hein, en ce qui concerne Daniel Mendelssohn.
C'est même probable.
Bon, on fait une émission aussi avec une forme de récit un peu circulaire, donc rappelle que nous parlions à l'instant de Patrick Modiano et de son livre « Souvenirs dormants ».
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième livre au sommaire de cette dispute consacrée le jeudi soir à la littérature, c'est « Notre vie dans les forêts » de Marie Darrieussecq, publié chez POL. Notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq, publiée chez POL, et sur cette belle musique de Bernard Herrmann, qu'Elisabeth Philippe a reconnue comme celle de Fahrenheit 451, le livre débute ainsi. J'ai ouvert l'œil et boum, tout m'est apparu. C'était limpide. Nous étions presque tous accompagnés par nos moitiés. Et ma moitié à moi, à quel point elle n'était pas autonome, ça faisait peur. Une chochotte. Je l'appelais comme ça, la chochotte. J'avais perdu tout sens de la psychologie. La seule chose qui marchait avec elle, c'était de la brusquer. Un peu. Du nerf. Il faut que je raconte cette histoire. Il faut que j'essaye de comprendre en mettant les choses bout à bout. En rameutant les morceaux. Parce que ça ne va pas. C'est pas bon là, tout ça. Pas bon du tout. Elle était immature, mais c'est normal. Vu la vie qu'elle avait menée. Vu la vie qu'on lui avait faite. Bon. Mais je n'ai pas envie de commencer par ma moitié. Elle me fatigue. Je pourrais commencer par mon patient, le cliqueur. Le patient zéro en quelque sorte. Je crois que c'est grâce à lui que j'ai compris. Il devenait fou, comme pas mal de monde. À cause de son travail. Du moins, c'est pour ça qu'il est venu au début. Au début, on vient tous pour une raison qui n'est pas la bonne, non? C'est mon expérience qui me fait dire ça. Laissez-moi d'abord vous décrire ma situation actuelle, maintenant, tout de suite, parce que je sens qu'il faut que j'aille vite. J'ai peu de temps. Je le sens à mes os, à mes muscles, à l'œil qui me reste. Je suis mal en point. Je n'aurai pas le temps de relire, ni de faire un plan. Ça va venir comme ça. Comme ça vient. Alors, deux points. Florent Gergesco. Ah non, c'est pas dans le texte. Ça, c'est à vous la parole.
Il manquerait plus que ça.
Oh !
Vous êtes sûr que je commence ?
Ouais, bon. Je suis sûr.
Eh bien, je commence.
C'est la règle de l'alternance.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que.
Et c'est tombé sur vous.
C'est une émission démocratique, c'est bien. Non, mais écoutez.
Embarrasse. Donc, Florent Gergesco, reste silencieux deux secondes. Alors là, c'est vraiment un truc.
On va pas parler de la langue de Modiano.
Ni de Daniel Mendelssohn. Alors là, on parle de
Daniel Mendelssohn,
notre vie dans les forêts.
Que je trouve admirable. Donc,
4 secondes de silence.
Oui.
Guinness Book.
Il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce livre.
Oui, alors dites ce qui ne vous plaît pas. Ça va aller plus vite.
Ça pourrait être vraiment très intéressant. Je trouve que c'est un livre qui passe à côté de son sujet assez systématiquement. Et je crois que
vous
c'est d'abord
notes,
justement...
Vous lisez mes notes, là, ou...
Pardon.
Vous lisez mes notes, là.
Vous me les avez données avant l'émission, il faut que les gens sachent tout quand même.
Les gens sachent tout.
Il passe à côté, elle passe, Marie Darrieussecq, de son sujet, à cause. Enfin, c'est un problème de langue, justement, je trouve essentiellement. C'est un problème de langue et de paresse, en quelque sorte. Donc, je vais essayer de l'illustrer par la langue. Dans ce que vous avez lu, il y a déjà ce boom. Mmh. Bon, très bien. Moi, j'ai absolument rien contre ça. Il y a des booms, bim, bam, boum, des top top, des breux, des ah, des hop. Très bien.
On pourrait faire une chanson avec Gainsbourg et John Birkin. Hein.
Oui, c'est ça, c'est comic strip. Mais justement, il faut.
Et Brigitte Bardot,
en effet.
Ah oui.
Pardon.
Vous rattrapez comme vous pouvez.
Il faut une ritournelle pour ça, il faut une mélodie, il faut un rythme. Et ce sont en fait, comme tout le long du livre, des marqueurs. Et je lui reprocherai de remplacer ce qu'elle pourrait faire avec un aussi puissant sujet par les marqueurs de ce qu'elle aurait pu en faire. Elle a une sorte de recherche de d'oralité à travers ses tics, par exemple, qui me paraissent remplacer cette oralité qui n'est jamais dans cette prose, en réalité, assez terne, assez peu colorée, assez peu rythmée. Et viennent par-dessus son texte, ces marqueurs, encore une fois. D'autres marqueurs, par exemple, et là, c'est pas juste une question de langue, mais de construction plus profondément du livre. Par exemple, vous savez, toutes ces parenthèses qui courent tout le long du livre, chaque fois qu'une référence est donnée. Primo Levi, entre parenthèses, un écrivain survivant du XXe siècle. Victor Hugo, poète, etc. Ce qui est fait systématiquement tout le long du livre, qui est vraiment un livre un peu rongé par l'éthique, globalement. Mais en dehors du fait que ça peut agacer, c'est pour moi typiquement ce qu'il y a de raté dans ce livre. C'est-à-dire, pourquoi elle fait ça? Parce que nous sommes dans un futur lointain, ou pas très lointain d'ailleurs, mais dans un futur, on est dans une dystopie, comme il est convenu de dire. On est dans un monde qui s'est effondré sur lui-même, dans la peur, et dans une forme, montre-t-elle à travers ses parenthèses, d'inculture, de rupture avec tout le passé. Ce qui aurait été un sujet pour construire une conscience, pour construire de la part de son personnage ou du monde, chez eux, un esprit diminué, un esprit dont amputé de cette culture. Elle ne fait que le dire, que dire que ce monde est amputé de cette culture, alors qu'il y aurait eu quelque chose d'absolument passionnant, une vraie expérience littéraire, mentale, à essayer de faire entrer dans, en fait, ce qui est son sujet, cette humanité infériorisée, diminuée, qui se perd et s'effondre elle-même. Le livre dit tout cela et ne le fait jamais, en quelque sorte, et c'est ce qui a fini par me le rendre ennuyeux.
Je peux donner un exemple aussi qui m'a un peu agacé de cette utilisation de la langue quand elle a écrit page 134 et 135, parce que c'est une phrase courte mais qui va de l'une à l'autre, un orbite rouge et saignant, et donc là il y a une note en bas de page qui dit « Je n'ai plus le temps de vérifier si on dit un orbite ou une orbite ».
Oui,
j'avoue que mon agacement l'a été à son comble, mais bon.
Oui, ce sont des trucs assez artificiels.
Raphaël Léris.
Je peux comprendre très bien que les tics que typiquement cette petite note de bas de page énerve. Après, pour moi, cette langue en semi-charpie, cette langue oralisée, mais pas complètement, elle correspond aussi au fait que ce livre, c'est le journal d'un corps qui se disloque dans un monde en lambeaux. Avec une langue qui elle-même s'appauvrit, comme le corps s'appauvrit, et donc cette femme, Viviane, a un poumon en moins, un œil en moins, et on finira par comprendre à la fin pourquoi, et d'ailleurs je trouve que la résolution du pourquoi est extrêmement ingénieuse, et relance le texte à un moment donné où on pouvait...
Et accroît nos regrets. Moi, je trouvais que c'était une très belle idée. Je trouve que c'était une très belle idée, ce qui se révèle à la fin sur la nature de...
Ouais, enfin, c'est rien de nouveau non plus sous le soleil.
Rien de nouveau, non. Ishiguro l'a très bien fait dans Près de moi toujours, par exemple.
Notamment. Mais,
donc un petit Nobel pour Darius Seck dans...
Bah, c'est fait.
Dans un temps. C'est fait. Proche. En tout cas, voilà, pour moi, cette langue a un sens. Et puis en plus, après un début vraiment très, très sec de la langue, il me semble qu'elle prend un peu d'élan, en faisant attention à n'en pas prendre trop. Sur la question de ces parenthèses, l'absurdité d'avoir du savoir dans un monde où il a disparu, dans ce monde futur, elle indique qu'elle appartient à un monde ancien, donc c'est Viviane et une psy. D'ailleurs, il y a un passage assez amusant où elle parle de son conseiller, de celui qu'elle voit pour vérifier où elle en est, et lui dit, après telle expérience, ben voilà, vous auriez pu devenir psychanalyste. Et elle dit, oh là, il a au moins 80 ans, celui-là. Et voilà,
Mais ça vous amuse.
Ça me plaît. Voilà, par ailleurs, je trouve que c'est un livre très drôle.
Ah ouais.
Aussi étonnant que ça puisse sembler, donc avec
Elisabeth
ce sujet.
Confirmé.
Voilà.
Ouais, non.
Donc, d'abord, la manière dont vous avez lu les premières pages le prouve, qu'il y a quand même un sous-texte qu'il y a une ironie.
Des années de conservatoire
légère et
en même temps. Il ne faut pas sous-estimer.
Mais il met du sous-texte partout.
Ouais, oui.
Qu'il n'y a aucune espèce de lourdeur, donc, alors qu'on est dans la 76e dystopie, vous avez raison, de la rentrée, on pourrait considérer qu'on a marre, mais qu'elle a une légèreté, une forme d'humour et de simplicité qui me semble porter ce texte et l'élever au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer.
Elisabeth Philippe, vous avez l'air d'accord avec Raphaël Léris.
Oui, je suis plutôt d'accord avec Raphaël Léris.
Ça n'a rien d'étonnant,
et
je
trouve...
Vous dites oui, comme ça.
Pardon, vous me laissez interdite. Bref, je suis d'accord avec Raphaël Léris et je trouve que la simplicité, peut-être le simplisme, dirait Florent Georgescu, en tout
non,
cas
non,
cette simplicité
tout.
Que Florent Georgescu reproche au texte de Marie Dariussac. Attendez, je vais essayer de finir ma phrase.
J'ai juste pas
je
dit
trouve,
ça.
Florent, s'il vous plaît, ça. Je vais vraiment essayer de finir ma phrase. Je trouve que cette simplicité fait justement la force du texte, qu'on peut lire comme une sorte de Blade Runner artisanal et modeste, vraiment avec une économie de moyens. Là, on n'est pas, ce ne sont pas des réplicants, mais des clones qui sont au cœur de ce texte. Et la question que pose Marie Dariussac, c'est une question que posent beaucoup d'autres textes en cette rentrée, vous l'avez rappelé, c'est qu'est-ce qui fait de nous des humains à une époque où de plus en plus les robots ou les clones sont de plus en plus perfectionnés, l'intelligence artificielle est de plus en plus perfectionnée, et à contrario, les humains de plus en plus robotisés, puisqu'elle parle d'une société dans laquelle les individus sont badgés, pucés, etc. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre robots et humains? Qu'est-ce qui constitue l'humanité? Et je trouve que justement, c'est ce que disait Raphaël, le recours à ces petites parenthèses, c'est trois fois rien de dire Primo Levi, entre parenthèses, un écrivain du XXe siècle. C'est montrer que cette culture qui a disparu faisait partie de ce qui nous fondait en tant qu'humains. Et ce sont des moyens très simples, mais tout à fait efficaces. Je trouve qu'il y a une vraie pertinence. Raphaël parlait de l'humour qu'on pourrait voir, parce qu'en même temps, c'est un texte grave, qui parle d'un monde effectivement en lambeaux. C'est peut-être cet humour, la politesse, sinon du désespoir, en tout cas de la lucidité de Marie Dariussac, parce qu'il y a dans ce petit texte, court texte, il est quand même question de la crise climatique, des modifications génétiques, des manipulations du vivant. Et je trouve qu'elle le fait avec une modestie, une humilité et une intelligence que j'ai trouvé nettement préférable, par exemple, à ce que faisait Don DeLillo, dont on a parlé ici, qui aborde peu ou prou les mêmes sujets. Et je trouve que c'est une façon de traiter la dystopie, le genre de la dystopie, très intéressante par sa modestie même.
Alors quand vous dites modestie, moi je serais plutôt du côté de Florent Georgescu, moi j'ai senti plutôt un manque de travail, parce que je trouve que les sujets sont là, en effet. Il y a quand même un savoir-faire qui est celui de Marie Dariussac depuis son premier livre, elle sait faire. Mais moi j'ai ressenti une forme de paresse aussi, donc voilà, c'est vraiment une impression de lecteur, parce qu'avec des sujets pareils, il y a quand même beaucoup de livres, et pas seulement depuis cette rentrée, sur des dystopies, y compris donc de plus en plus maintenant, climatiques, transhumanistes, etc. La fin qui est supposément un coup de théâtre est quand même, pour moi, enfin, je sais pas, comme beaucoup d'autres lecteurs, j'imagine, attendu, pour peu qu'on on connaisse ou qu'on lise un petit peu de temps en temps des choses. Vous l'avez noté Bon, mais la prochaine fois, vous le mettez dans un papier, un huissier. Enfin, bon, il faut des preuves de ce que vous avancez, mon cher Florent. Mais c'est vrai que ces hésitations, alors vous dites que c'est un peu plus fluide, ensuite le texte et ses parenthèses, etc., elles sont tellement construites par l'auteur, on voit bien à quel point elle travaille l'hésitation, la reprise. Mais moi, j'ai très vite vu seulement le procédé.
La mise en scène d'un geste, d'un procédé, oui. Pour ça, la question n'est pas pour moi la simplicité ou pas la simplicité. C'est
le simplisme, c'est le mot qui vous a fait tiquer.
Pas du tout le simplisme.
Voilà,
il est tout à fait évident qu'il y a là-dedans, ce que j'ai essayé d'évoquer, en essayant quand même d'évoquer le fait qu'il y a des choses intéressantes, il y a là-dedans plein d'idées riche de vues sur le monde actuel ou sur les possibilités de l'avenir ou sur la nature humaine qui sont intéressantes. Tout ça est au contraire, si vous voulez, profond, mais elle pointe en permanence sur cette profondeur, avec, je trouve, une balourdise de moyens et une sorte de surmultiplication du signe qui est un signe vide, parce qu'il ne pointe que la possibilité de parler de tout ça. De quelque chose justement de très riche, qui n'est pas du tout, je ne lui reproche pas du tout d'être pauvre, je reproche presque d'être trop riche, ce qui n'a aucun intérêt dans un livre quand il n'y a pas, quand la paresse, cette sorte de paresse empêche de tout nouer, de tout mettre en mouvement, de tout faire exister, de nous faire entrer dans ce monde qu'elle décrit. Et on reste totalement à la porte, parce qu'on reste face au boom et au A comme seul marqueur de la voix. Elle
essaie
de créer une voix.
Il faut que je vous arrête, Florent Georgescu, moi aussi.
Et cette voix, on ne l'entend pas, comme bientôt la mienne.
Parce que vous savez qu'on rend l'antenne au bout d'un moment.
Qu'on est en train de faire taire.
Non, mais d'abord, juste faire entendre Boris Pinoy aux deux avis, rapidement, et c'est Raphaël Léris qui conclura.
Glaçant et réussi, écrit Céline Autain sur Twitter, et Sylvie Marie Braillard a aussi beaucoup aimé le livre de Marie Dariussac, qu'elle dit empli d'un humour léger, malgré le sujet.
Bon, il y en a d'autres que ça fait rire, en effet. Raphaël Léris, pour conclure.
Oui, mais ce que je trouve impressionnant, c'est la manière dont son personnage avance à tâtons dans ce monde qu'elle ne se fatigue pas trop. Alors vous parliez de paresse à décrire. Enfin, pour moi, c'est une forme aussi d'humour de dire je ne vais pas vous raconter mille fois ce que vous savez déjà sur ce qui nous est arrivé, parce que toutes les dystopies en font des tonnes sur ce qui nous est arrivé, la catastrophe. Et elle, c'est pas son sujet. Et, il me semble que son sujet, c'est plutôt vivre à tâtons dans un monde catastrophé. Voilà, et de ce point de vue, il me semble que c'est
un très beau sujet. Ça aurait été notre que ce
vie
soit réalisé.
Dans les forêts de Marie Dariussecq est paru chez POL. La chanteuse qui a créé Comic Strip, c'est Mireille Darc. Je l'apprends en même temps que vous, grâce à Wikipédia, citons nos sources, repris ensuite par Brigitte Bardot. Mais moi, j'ai la version de Jane Birkin, c'est celle que j'ai chez moi, c'est pour ça que
je l'ai vraiment. Il faut toujours vous distinguer.
Mais pas du tout, je pense que ça va être la plus vendue. Là,
donc c'était... tout est vrai à la fois.
Enfin, Mireille Darc, par contre, je ne la connais pas, donc il faut que j'écoute ça. Donc c'était bien Notre vie dans les forêts de Marie Dariussecq, chez POL, dont nous parlions. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, et on commence avec Grégoire Di Fiore, comme chaque soir, par un rappel de la question d'hier au soir, Grégoire.
Comment ont été surnommées les deux sculptures de Lyon situées à l'entrée de la bibliothèque publique de New York ?
Et la réponse est ?
Courage et patience.
On parle demain d'Ex Libris, le nouveau film de Frédéric Wiseman. Demain, je le rappelle d'ailleurs, en public, comme tous les vendredis, au café Le Bel Air, quand vous serez sage, vous pourrez peut-être venir. Vous, les critiques littéraires, pour l'instant, c'est le vendredi.
Bon, on les critiques littéraires, ça ne se montre pas, c'est ça.
Vous en tirez les conclusions que vous voulez, Florent, pas de parano. Donc demain soir, venez nous rendre visite au Bel Air, à la Maison de la Radio. Ce soir, des places de cinéma encore à gagner pour le film Carré 35 d'Eric Caravaca, qui vient de sortir sur les écrans. La question, Grégoire ?
En quelle année le réalisateur a été récompensé du César du meilleur espoir masculin ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfcr@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission, enfin toutes, certaines, sont à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute. Et bien sûr, vous pouvez, en passant cette page, vous abonner au podcast de l'émission. Demain, 19h, donc dispute cinéma en public au bar Le Bel Air à la Maison de la Radio. Je serai avec Muriel Joudet, Julien Gester et Thierry Chaise. À notre affiche, je l'ai dit, Ex Libris de Frédéric Wiseman. Nous parlerons également de Logan Lucky de Steven Soderbergh et de Jeune femme de Léonore Serrail.